Laudetur Jesus Christus.
Le nouveau Premier ministre libanais Najib Mikati était à Paris ce vendredi, reçu pour la première fois par Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont mis d'accord sur l'urgence des réformes à mener au Liban. À la une actuellement, les tensions s'exacerbent en Tunisie entre le président et l'opposition. Après le renfort des prérogatives de Kais Saied, le chef du Parlement appelle à la lutte pacifique contre un pouvoir qu'il juge absolu. Et puis nous reviendrons sur la crise des migrants à la frontière sud des États-Unis. Washington a opté pour la fermeté, expulsant massivement des milliers de migrants haïtiens vers leur île d'origine.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonsoir, le nouveau Premier ministre libanais Najib Mikati était ce vendredi à Paris pour un déjeuner de travail avec Emmanuel Macron, son premier déplacement à l'étranger. Le président français a rappelé à son hôte qu'il était urgent de prendre les mesures et les réformes indispensables pour sortir le pays du Sud de l'une des pires crises économiques et sociales de son histoire. Pour sa part, Mikati a exprimé sa détermination à lancer les réformes et un renouveau de son pays, notamment par la bonne tenue des élections législatives prévues pour le 8 mai prochain. Marie-Christine, bonsoir.
Najib Mikati s'est engagé auprès d'Emmanuel Macron à ce que les réformes structurelles, qui sont la condition préalable à une aide internationale de plusieurs milliards de dollars au Liban, soient entamées dans les plus brefs délais. Najib Mikati, l'homme le plus riche du Liban, a été choisi pour gouverner son pays après 13 mois de tractations laborieuses sur fond de désastre économique et social. Le milliardaire a déjà occupé les fonctions de Premier ministre par deux fois, et comme quasiment tous les dirigeants libanais, il n'a pas échappé au scandale. Emmanuel Macron dit comprendre les frustrations des Libanais et entendre leurs interrogations. Mais il veut croire que l'arrivée de Najib Mikati à la tête du gouvernement libanais constitue, et je cite M. Macron, une opportunité d'avancer concrètement dans les réformes au service des Libanais. M. Macron a souligné que la France et les autres pays donateurs ne donneront pas au Liban un chèque en blanc. La communauté internationale ne pourra apporter un appui structurel au Liban qu'une fois ces réformes mises en œuvre, ou du moins enclenchées, a en effet déclaré le président français. De son côté, M. Mikati a déclaré, et je cite, que le chemin est difficile, mais pas impossible. Marie-Christine Bonzon. Pour Radio Vatican.
Le président libanais Michel Aoun, lui, s'est exprimé à l'occasion de la 76e Assemblée générale de l'ONU. Dans un message vidéo, il a rappelé à la communauté internationale, il l'a appelé à financer des projets vitaux dans les secteurs publics et privés, et souligné également que les menaces israéliennes constituaient, selon lui, le principal souci de l'État libanais. Les négociations sur le nucléaire iranien vont reprendre très bientôt. Déclaration il y a quelques minutes du ministre iranien des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef de la diplomatie iranienne qui a néanmoins dénoncé les messages contradictoires des États-Unis à propos de leur retour dans cet accord international conclu en 2015. L'Union européenne propose la création d'un rapporteur de l'ONU sur l'Afghanistan. Les pays européens souhaitent profiter de la session en cours du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour créer ce poste. Un projet de résolution européen appelle à la fin immédiate de toutes les violations des droits humains et atteintes au droit humanitaire international en Afghanistan. Demande le respect des libertés fondamentales, y compris la liberté de réunion et d'expression. Je vous le disais en titre, les tensions s'exacerbent en Tunisie entre le président et l'opposition. Après le renfort des prérogatives du président Kais Saied, le chef du Parlement a appelé hier à la lutte pacifique contre un pouvoir qu'il juge désormais absolu. Le chef de l'État a formalisé mercredi son coup de force du mois de juillet, promulguant des dispositions exceptionnelles, dont le fait de légiférer par décret. Le parti d'opposition Ennahda s'inquiète pour la pérennité de la démocratie tunisienne. Le décryptage d'Asni Abidi, il est politologue spécialiste du monde arabe à l'université de Genève.
Aujourd'hui, le président veut légiférer par décret, ce qui signifie qu'il a finalement neutralisé la Constitution et toutes les autres structures, et même le semblant de ce qu'on appelle le Conseil d'État, en quelque sorte, qui statue sur la constitutionnalité des lois. Il ne veut surtout pas avoir de critique, il ne veut surtout pas avoir d'opposition au sein de la classe politique, au sein du Parlement, au sein aussi de corps judiciaires. Donc, il ne s'agit pas vraiment de mesures transitoires, mais je pense que le président Raïs Saïd veut changer la nature même de ce système politique hybride entre parlementaire et présidentiel. Il veut la concentration des pouvoirs aux mains de chefs d'État. Il est aussi attiré par ce dialogue direct avec la population, ce qui signifie probablement aussi les référendums, qui va imposer les référendums comme un outil de gouverner la Tunisie, ce qui va encore installer la Tunisie dans une crise politique et économique coûteuse.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Dans l'actualité vaticane, le pape François a reçu ce matin Monseigneur Raphaël François Minassian, le nouveau patriarche de Cilicie des Arméniens, élu à l'issue du synode de l'Église catholique arménienne qui s'est tenu ces jours-ci à Rome. Une rencontre sobre et chaleureuse au cours de laquelle le Saint-Père a pu faire preuve de sa proximité, de sa simplicité, selon le patriarche. Le pape François qui, dans une lettre au nouveau patriarche arménien, lui a remis une lettre pour lui accorder la communion ecclésiastique. Nous connaissons le peuple arménien comme un expert de la souffrance en raison des nombreuses épreuves subies tout au long de plus de 1700 ans d'histoire chrétienne, mais aussi en raison de son inépuisable capacité à s'épanouir et à porter du fruit, peut-on notamment lire dans cette lettre. Plus de détails à retrouver sur notre site vaticannews.va. Et puis sachez que le pape a accepté la mise en retrait pour quelques mois du cardinal Wölki, l'archevêque de Cologne en Allemagne. Celui-ci avait demandé au Saint-Père une pause dans l'administration de son diocèse secoué par de nombreux scandales d'abus sexuels. Crise migratoire, humanitaire et bientôt diplomatique à la frontière américaine avec le Mexique. Sur les rives du Rio Grande, des dizaines de milliers d'Haïtiens attendent de passer au Texas dans des conditions d'insalubrité très douteuses. De l'autre côté, les États-Unis ont opté pour la fermeté, expulsant massivement ces migrants haïtiens vers leur île d'origine. Au milieu, le Mexique, terre de transit débordée, appelle Washington à ses responsabilités afin de juguler les flux dans les pays d'origine. L'analyse de James Cohen, il est spécialiste des questions migratoires aux États-Unis, professeur à l'université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3.
Il y a une longue histoire de la présence haïtienne aux États-Unis, c'est pas si récent. Mais bon, ceux dont on parle, qui essayaient d'entrer par le Texas, étaient un grand nombre des Haïtiens qui étaient déjà sortis de Haïti et qui vivaient en Amérique latine, entre le Chili et le Mexique, et qui pensaient qu'avec Biden, ils allaient pouvoir rentrer sans beaucoup de problèmes. On les expulse et on invoque la même règle qu'invoquait l'administration Trump du service de santé, pour dire que non, on ne peut pas garantir qu'ils ne sont pas malades du Covid, donc on ne les garde pas. Mais parmi les personnes qui étaient dans le camp sous le pont à Del Rio, au Texas, il y a aussi des gens qu'on a fini par admettre, en tout cas le temps de formuler leur demande d'asile, notamment les femmes enceintes et leurs familles. Les autres sont expulsés par avion. La fermeté de la part de l'administration Biden est à mon avis largement électoraliste. C'est-à-dire que Biden, même s'il n'aime pas être associé à les images de brutalité des agents de la police frontalière, de toute façon l'administration Biden voulait montrer une image de fermeté pour dissuader les gens de venir et pour également essayer de ne pas perdre trop d'électeurs conservateur. Il ne veut pas avoir l'image du président qui laisse rentrer tout le monde. Et comme il y a des élections de mi-mandat qui arrivent assez vite, je pense qu'il a ça en tête.
En quoi la politique migratoire de Joe Biden diffère-t-elle de son prédécesseur ?
Un début de différence qu'on perçoit quand on voit tout au début. On a mis la vice-présidente Kamala Harris sur une mission qui consistait à, disait-elle, combattre les causes profondes des flux migratoires. Autrement dit, remonter à la source, notamment en Amérique centrale, au Guatemala, au Honduras, au Salvador, pour essayer d'aider ces pays à mieux se développer, pour mieux retenir leur population. L'intention annoncée. Alors qu'à l'époque de Trump, on n'annonçait rien de tel. On punissait les migrants, mais on punissait aussi les gouvernements des pays d'origine. Et l'idée d'une aide au développement ne faisait même pas partie de la formule. Alors que maintenant, on revient à ce que je vois un peu comme des vieilles recettes d'aide au développement, de type un peu néolibéral, qui ne vont pas accomplir grand-chose. Mais au moins, on a changé de discours.
Pourquoi alors avoir prolongé ce statut de protection temporaire aux Haïtiens présents en sol américain cet été ?
Ce statut de protection ne concerne, je pense, que un petit pourcentage des Haïtiens, peut-être 50 000. On a prolongé ce statut que l'administration Trump avait menacé d'abolir, mais ça ne concerne pas le gros des troupes des migrants.
Quelles sont les conséquences diplomatiques maintenant pour les relations américaines avec le Mexique ?
C'est intéressant, on va le voir. À l'époque de Trump, le Mexique a été obligé, sous la menace de tarifs douaniers et d'autres sanctions économiques, obligé de reculer et de garder tous les candidats à l'asile civile de son côté de la frontière. Je pense que maintenant, il y a des rapports diplomatiques plus civilisés.
Voilà, interrogé par Delphine Allaire, James Cohen, spécialiste des questions migratoires aux États-Unis à l'Université Paris-Sorbonne Nouvelle 3, était l'invité de notre dossier. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Demain à 18h, c'est un nouveau numéro de Vox Mundi, notre émission hebdomadaire que vous retrouverez. Je vous souhaite une excellente soirée.